Comment dire quelque chose qui n'est pas simple à dire? Comment aborder les conversations difficiles?
Bonjour, nous sommes Aimé et Adrien. Bienvenue dans Je vais mieux.
Je vais mieux est un espace de conversation honnête et d'exploration enthousiaste pour retrouver la faculté d'être vraiment connectés les uns aux autres, pour que nos relations répondent à nos besoins profonds d'être humain. Merci à vous toutes et tous qui revenez chaque semaine pour écouter, être inspirés et évoluer tous ensemble. C'est à travers vous que ce podcast vit. Alors, on a parlé des conversations difficiles dans l'épisode 17, et Dieu sait que parfois elles arrivent sans crier gare au détour d'un petit dîner pourtant tranquille entre amis ou en famille, et puis là, padam, quelqu'un aborde le sujet qu'il fallait pas, et ça nous explose à la figure de tout le monde. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi des moments où on sait qu'on a quelque chose à dire qui est pas simple. On sait qu'on a besoin d'avoir cette conversation et que ça va piquer, peut-être des deux côtés ou peut-être surtout d'un côté, mais en tout cas, on sait qu'il y a quelque chose de lourd à dire. Et ça, ça crée de la peur, soit parce qu'on a peur que ça soit pas facile à entendre, soit parce qu'on a peur que ça soit pas facile à dire, ou les deux, ou bien parce qu'on a peur de comment ça va être reçu, de quel impact ça peut avoir sur l'image que l'autre a de moi une fois que j'aurai dit ce que j'ai à dire. On sait quelque part qu'une fois que c'est dit, ça peut pas être repris. Donc il y a des peurs qui s'invitent quand on a quelque chose comme ça à dire qui nous pèse sur le cœur. Et du coup, comment faire pour pouvoir s'engager dans ce genre de conversation en se sentant le plus possible en sécurité? Comment créer un espace-temps propice à ce genre de discussion? Comment oser mettre les pieds dans le plat ou dire à voix haute ce qu'on a à dire?
Alors, vous l'aurez sûrement remarqué, la première difficulté qu'on rencontre dans ce genre de situation, c'est comment on démarre. Qu'est-ce qu'on dit au début, en fait? Parce que on est à l'intérieur de soi-même, on sent qu'on a envie ou besoin de dire quelque chose de difficile. Donc souvent, on a peur. Des fois, on prend beaucoup de temps avant de réussir à rassembler le courage pour oser en parler. Ça peut même tourner dans notre tête pendant un moment. Et on peut se dire, attends, mais si je dis ça, il va se passer ça. Si je dis ça, il va se passer ça. Si je dis ça, il va se passer ça. Et en fait, ce dont on a besoin au départ, c'est d'une stratégie pour commencer. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de commencer par quelque chose de très simple. C'est de dire les choses comme elles sont. Et dire les choses comme elles sont, c'est commencer par dire, j'ai quelque chose à dire et je ne sais pas comment faire. Le fait de dire « je ne sais pas comment faire » nous permet de rassembler l'attention. C'est-à-dire qu'en fait, ça attire l'attention de l'autre sur le fait « ah tiens, là, il se passe quelque chose de sensible, ça a l'air d'être important, je ne sais pas encore ce que c'est, cette personne, elle a l'air pas forcément à l'aise, donc c'est qu'il doit se passer quelque chose. » Donc en fait, ça attire notre attention, ça nous permet de nous concentrer sur le moment. Et le fait de dire ça, ça permet de sentir que, vu que c'est pas simple, on a besoin de créer des bonnes conditions, on a besoin de créer des conditions propices pour que ça puisse avoir lieu. Donc, y apporter du soin. Et en même temps, ça permet de... J'ai envie de dire commencer par le commencement, c'est-à-dire commencer par parler de ce que je ressens. C'est-à-dire que, avant de pouvoir parler de quelconque sujet, ce qui va nous permettre d'être en lien, c'est de parler de notre ressenti, c'est de parler de notre émotion. Et si je dis ça, je dis... comment je me sens, je dis à quel point je ne suis pas à l'aise et à quel point c'est difficile pour moi. Et en fait, ça me permet aussi de me connecter à moi-même et d'être présent à moi-même dans ce moment-là, parce que vu que ce n'est pas facile, je vais vraiment en avoir besoin.
Oui, ça me connecte à moi-même et quelque part, ça me connecte au fait que ce n'est pas facile à dire et que quelque part, j'ai peur de ce qui va se passer. Mais pourquoi j'ai peur? En fait, de quoi j'ai peur? Finalement, j'ai peur de la réaction de l'autre, j'ai peur du conflit, j'ai peur de ce que ça va changer dans la façon dont l'autre me perçoit, j'ai peur de ce qui va suivre après cette conversation. En fait, j'ai peur de perdre l'amour et l'estime de l'autre, j'ai peur de perdre le lien quelque part. Et ce qui crée cette peur, ce qui est sous-jacent, c'est le fait que l'autre va forcément en penser quelque chose, et du coup va forcément porter un jugement dessus. Et à partir de ce jugement, il peut me rejeter, il peut m'agresser, je peux ne pas me sentir compris dans ce que j'ai à dire, parce que ce que j'aurais dit aura été transformé quelque part par l'esprit de l'autre et par ce jugement que l'autre aura porté dessus.
La difficulté, elle commence toujours avec le jugement. Et en fait, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, le jugement, il est normal, il est spontané. C'est vraiment une des fonctions essentielles du cerveau d'analyser l'environnement, de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Est-ce que je suis dans un environnement hostile? Est-ce que je suis dans un environnement bienveillant? Et de chercher à catégoriser les choses en bonnes, mauvaises, amis, ennemis, sécurité, danger, bienveillance, néfaste. C'est une fonction de survie du cerveau qui nous permet à la fois de nous protéger de ce qui est autour de nous, et en même temps à la fois d'appartenir, parce qu'il n'y a pas que les dangers, il y a aussi les amis. Donc c'est de pouvoir dissocier le bon grain de l'ivraie, pouvoir sentir que dans cet espace-là, ça va, dans l'autre, ça ne va pas. Et donc le cerveau a besoin de dissocier les choses et il a besoin de les juger. Donc on peut partir du principe que c'est une réaction humaine qui se passe de manière automatique, par défaut, et qui en fait elle est hyper simple, elle est hyper rapide, elle est hyper basique, elle ne nécessite pas d'effort, elle ne nécessite pas de conscience. Et du coup, si on ne prend pas des mesures pour qu'il se passe autre chose, on peut raisonnablement penser que c'est ça qui va se passer de manière spontanée, quasiment à chaque fois.
C'est ça. Quelque part, il faut intentionnellement faire autrement. Intentionnellement poser des choses, poser un cadre, poser un temps, un espace qui va permettre que ce ne soit pas ce jugement qui guide et qui mène la danse, quoi. Alors, comment on crée un espace de sécurité par rapport à cette peur du jugement? Quelque part, l'espace de sécurité, c'est justement essayer de minimiser ce risque du jugement, ou en tout cas, essayer de le suspendre suffisamment pour qu'on puisse faire une autre expérience derrière, pour que chacun puisse oser être en vulnérabilité, puisse oser être lui-même. Parce qu'en fait, quand on a peur d'être jugé, quand on a peur de ce que l'autre va en penser, de ce que l'autre va en faire, et de comment ça va nous revenir dans la figure plus tard, froid, moisi, etc. Quand on a peur du jugement comme ça, on ne peut pas oser être soi. On ne peut pas s'exposer en vulnérabilité. On ne peut pas parler des choses qu'on a sur le cœur et qui sont difficiles à dire. C'est trop risqué. Donc, vraiment, on parle d'espace de sécurité dans la mesure où c'est créer un endroit inhabituel, hors du commun, spécial, intentionnel, où je vais pouvoir aller dans cette vulnérabilité et oser être pleinement moi-même. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'existe quasiment nulle part, dont on n'a pas du tout l'habitude, parce que quand on marche dans la rue, en fait, nous, on juge les autres, et les autres nous jugent, et on le fait tous, et c'est normal, et on le sait, on juge les autres sur leur apparence, on juge les autres sur leur comportement, on a de cesse, comme tu disais, de catégoriser le monde en « celui-là, il est comme moi, celui-là, il est différent, celui-là, il fait ci, celui-là, il fait ça », etc. Et quand on est, alors, dans des relations amicales, en général, on sait avec nos amis qu'on va pas être trop jugé, et encore, il y a souvent des sujets qu'on n'ose pas aborder parce qu'on a peur de ce qu'ils vont en faire, de ce qu'ils vont en penser, etc. La famille, si on a de la chance, on est en sécurité, la plupart du temps, c'est un haut lieu de jugement et de démantèlement de comment je suis et que c'est pas assez bien, etc., etc. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas, ils font qu'on montre que des choses qui sont bien parce que sinon on se fait démolir en deux-deux. Enfin, ça, on vit en fait dans des mondes qui sont habités par ce jugement. Et comme tu disais, c'est normal parce qu'en fait c'est humain, parce que tout le monde le fait depuis toujours. Et vraiment, je crois pas que avant c'était tellement mieux et que maintenant il y a beaucoup plus de jugement. Je crois qu'avant il y avait tout autant de jugement et même qu'à la limite il était encore plus risqué parce que si quelqu'un te jugeait mal, tu pouvais potentiellement finir à l'inquisition. Donc c'était quand même pas rigolo. Mais vraiment, il y a quelque chose du jugement qui est inhérent à l'être humain. Et du coup, créer un espace où on va suspendre ce jugement, où on va plus avoir besoin d'être dans cette peur-là parce qu'on aura intentionnellement créé cet espace de sécurité, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose d'unique dont on n'a pas du tout l'habitude. Et ça crée un moment profond et mémorable. Ça crée une expérience dont on tire des choses qu'on ne tire pas habituellement quand on est dans cette peur et dans ce mode de protection de nous-mêmes.
Et du coup, il y a quelque chose de magique, c'est-à-dire qu'en fait, en créant un autre environnement, on obtient un autre résultat. Comme tu le disais si bien, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas dans la société, C'est vraiment pas du tout habituel. Mais du coup, pour obtenir un résultat inhabituel, il faut faire quelque chose d'inhabituel. Et comme le disait Einstein, la folie, c'est de chercher un résultat différent en faisant la même chose. Donc pour obtenir un résultat différent, il faut faire autrement. Il faut créer un cadre exceptionnel qui permettra d'obtenir d'autres résultats. Un cadre dans lequel on va pouvoir donner autre chose et recevoir autre chose qu'on n'a pas l'habitude de donner et qu'on n'a pas l'habitude de recevoir.
Alors, un espace de sécurité, ça repose sur le fait de passer des accords ensemble. Pourquoi on parle d'accords? Parce qu'en fait, les règles, comme on le sait tous très bien, sont faites pour être transgressées. Elles sont quelque chose qui sont édictées a priori, et dans notre inconscient collectif, elles sont rigides, immuables, et elles viennent de l'extérieur, d'une autorité extérieure. C'est les règles que le petit enfant doit apprendre de ses parents parce que c'est les règles de la société, c'est les règles à l'école qui viennent de la maîtresse, la directrice, etc., etc. C'est les règles effectivement de la société, les lois qui nous sont extérieures, qui nous préexistent et sur lesquelles on n'a pas de prise directe. C'est toutes ces règles-là qui sont en dehors de nous et où on n'a pas notre mot à dire en fait. On ne nous a pas demandé si on était d'accord ou pas. On arrive dans une société, il faut qu'on les respecte ces règles. Et si on ne les respecte pas, il y a des sanctions. Mais du coup, ça donne quelque chose qui ben, souvent donne très envie d'être transgressé, hein, juste pour essayer comme ça, ou que quand je ne suis pas d'accord avec, je vais en faire ma petite popote et ma petite cuisine et m'accommoder de petites ou plus ou moins grandes transgressions. Alors qu'un accord, ça demande plusieurs personnes, au moins deux. Et ça se crée entre ces personnes, en fait. C'est créé dans l'instant. Ça n'existe que tant qu'on est d'accord. Si on n'est plus d'accord, l'accord n'existe plus. Ça paraît évident, mais c'est important à dire. Donc, ça nécessite que ce soit co-créé. Ça nécessite que ce soit rediscuté si ça a besoin de l'être. Ça nécessite de pouvoir évoluer, de pouvoir être modifiable, révisable, pour que tout le monde puisse continuer à rester d'accord. Et donc, ça fait vraiment exister quelque chose entre nous et autour de nous. Ça crée vraiment cet espace qui est vivant et qui va pouvoir évoluer avec nous, à la différence de règles qui sont écrites en 2D, en noir sur blanc, et qui sont immuables.
Comme tu le disais, en fait, pour qu'on soit en sécurité, il faut que les personnes aient envie de faire ce sur quoi on s'est mis d'accord.
C'est ça. On peut dire oui ou on peut dire
On
non.
peut dire non. Et c'est ça le truc, c'est que on peut pas exiger de quelqu'un un espace de sécurité.
Non.
En fait, il faut que la personne puisse avoir la liberté de dire non. En fait, moi, j'ai pas envie de faire ça. Parce que c'est parce que le non est possible que le oui a de la valeur.
Eh oui, toujours.
Donc, si on impose une règle, si on dit voilà, en fait, voilà, on va se mettre en vulnérabilité et tout, machin, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, signe en bas de la feuille. En fait, ça crée une tension parce que personne aime se faire imposer quelque chose. Et plus ça crée de la tension, plus ça crée le germe d'un problème. Donc la seule manière d'être vraiment en sécurité, la seule manière, j'entends par sécurité que la personne, en fait, si j'ai envie que la personne respecte ce qu'on est en train de se dire, il faut, à mon avis, que la personne elle ait envie de le respecter.
Et oui, c'est ça.
C'est comme ça qu'on peut vraiment créer une sécurité. Parce que dire, OK, je vais imposer et je vais contraindre, et comme ça, je vais être en sécurité parce que la personne, elle est contrainte. Ouais, non, mais attends, à part si tu as une arme dans la main, la personne, si elle n'a pas envie, elle va pas le faire. Donc en fait, si tu imposes, tu crées les conditions de ton insécurité.
C'est ça, parce que de toute façon, enfin, même si tu imposes, toi, tu vas pas sentir que l'autre va s'y tenir et qu'il a été d'accord, encore une fois. Donc, t'as juste imposé quelque chose, mais c'est unilatéral.
Et en fait, on aurait tellement souvent besoin de ça. En fait, il y a tellement de moments où on aurait besoin de pouvoir être dans un espace de sécurité, mais on n'ose pas le demander parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on n'imagine pas que c'est possible, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on l'a vu nulle part aussi, en fait. On n'ose pas nommer le fait qu'on ait besoin de ça. Alors qu'en fait, c'est possible. C'est possible de demander a priori un espace de sécurité quand on a besoin de dire quelque chose de sensible. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se jeter dans la fosse aux lions, comme ça, de manière inconsciente, en disant, OK, j'ai quelque chose de super chaud à dire, là, c'est super vulnérable, il y a potentiellement la possibilité que je me fasse super mal, mais du coup, je vais dire ça entre la poire et le dessert au repas, et peut-être ça va passer. Non, ça c'est super dangereux. Ou attendre moi, je me rappelle, enfant, j'attendais la pub entre une émission pour pouvoir dire quelque chose parce que j'attendais qu'il y ait un espace disponible. Non, mais si la personne n'est pas concentrée, qu'on n'est pas là, qu'on ne s'est pas mis d'accord, qu'on n'a pas attiré l'attention, qu'on n'a pas créé un minimum d'accord ensemble sur le fait qu'on a envie de vivre ce moment-là, on crée les conditions pour que ça se passe mal. Et du coup, ce qu'on a du mal à imaginer souvent, c'est qu'en fait, on peut aussi créer les conditions pour que ça se passe bien. Donc, pour ça, il faut choisir ensemble un moment. Il faut choisir un contexte. Il faut le définir. Il faut le nommer explicitement. Et en plus de ça, c'est clairement une manière de donner de l'importance à ce moment. C'est une manière d'attirer l'attention et c'est une manière de dire, en fait, ça a vraiment de la valeur pour moi, donc j'ai besoin qu'on en prenne soin.
Oui.
Et en plus de ça, pour que ça fonctionne, tout à l'heure on disait il faut que ce soit un accord, et en fait, un accord repose sur le fait que les parties prenantes prennent une décision. Il faut qu'on puisse s'engager, il faut qu'on décide ensemble que, en fait, on va se donner ce moment-là. Et en fait, de la valeur de la décision volontaire va naître cet espace de sécurité. Parce que cette décision, elle nous permet de dire que, en fait, on est tous les deux responsables, ou tous les trois, ou tous les cinq, on est tous responsables de ce qui va se passer. Si je me fais imposer quelque chose, je peux tout le temps botter en touche, sortir et dire non, mais moi, de toute façon, je n'étais pas d'accord, alors c'est bon, vous n'allez pas me courir sur le réco. Alors que si, au contraire, on a pris la décision ensemble, on s'est engagé ensemble, on est tous responsables.
Oui, donc finalement, on décide ensemble de comment on va se comporter, de comment on veut que ce moment se déroule. On décide ensemble qu'on veut le traverser, qu'on veut ne pas rester bloqué au milieu et qu'on veut arriver de l'autre côté. Et on s'engage et on en prend une responsabilité partagée. Et tout d'un coup, ça repose plus que sur les épaules de la personne qui doit ouvrir le sujet. Parce que parfois, en plus, c'est son sujet. Et puis parfois, c'est pas son sujet. Et parfois, c'est le sujet de l'autre ou c'est le sujet du système. On voit souvent ça, que ce soit dans les familles ou dans les équipes, où il y a quelqu'un qui, à un moment, dit « Ok, en fait, on a un problème collectivement ». Mais c'est moi qui prends sur moi de le dire, et du coup c'est moi qui me mets dans la zone de danger, dans la ligne de tir, entre guillemets, et en espérant qu'on va pas tuer le messager. Et ça arrive très très souvent. Alors que si on peut dire, ok, on a besoin d'avoir une discussion, est-ce qu'on peut décider ensemble de comment on va se comporter? Est-ce qu'on peut prendre les engagements ensemble, prendre la responsabilité collectivement, et du coup s'investir autant l'un que l'autre dedans, peu importe qui va amener le sujet et qui a demandé, dans un premier temps, cet espace de sécurité. C'est pour ça que nous, on parle vraiment d'engagement. C'est des accords et c'est des engagements. C'est-à-dire que ça me demande de m'investir dedans et ça demande à chacun de le faire. Même si, encore une fois, je ne suis pas celui qui va commencer à parler. Donc dans les engagements, le premier qui est peut-être évident, peut-être pas si évident, c'est d'aller ensemble dans la vulnérabilité. Ça paraît quelque part évident dans le sens où, en fait, si ces sujets sont sensibles, si ces conversations sont difficiles, si cette chose elle pèse sur mon cœur depuis un moment et que je marche sur des œufs et que je ne sais pas comment l'aborder, c'est précisément parce qu'il y a dedans des émotions, des enjeux, des peurs, etc., etc., qui font que, par nature, ce sujet-là va me mettre dans ma vulnérabilité. À partir du moment où j'ai peur d'en parler, je suis déjà dans la vulnérabilité. Je suis déjà en train de m'exposer, quelque part, à un risque. Donc, accepter d'aller dans la vulnérabilité, c'est, encore une fois, faire un choix conscient de ça, le voir, se dire « Ok, donc là, s'il y a quelque chose à dire qui n'est pas simple, c'est que dedans, il y a de la vulnérabilité. Et on le regarde et on le nomme. » Et ça permet de poser les choses. Et puis, on y va ensemble, de nouveau. C'est pas seulement la personne qui va aborder le sujet ou qui va commencer à parler, qui va dans sa vulnérabilité, et si elle a un peu de chance, l'autre va la suivre. Non, on décide qu'on va ensemble. Donc ça veut dire que si moi j'ai quelque chose à te dire, toi, dans ta réponse, dans ta réaction, dans ce qui va se passer entre nous, tu acceptes d'aller dans ta vulnérabilité aussi, dans tes émotions, dans ta peur, dans ce que ça touche à l'intérieur de toi, dans tes enjeux, tes souvenirs, ton histoire, etc. Et tu ne vas pas me laisser seule avec le paquet puant.
Donc c'est accepter que, en plus du sujet dont on est en train de parler, il y a aussi un autre sujet, a priori, qui est comment je me sens à propos de cette chose. Donc ça revient à accepter de partager mes émotions et mon ressenti, et que ça aussi, ça devienne un sujet. En fait. De se dire comment je me sens et comment tu te sens, c'est autant important, voire même plus, que le sujet dont on est en train de parler.
Oui.
Le deuxième accord d'attitude intérieure, c'est d'accepter de rester curieux, de ne pas partir du principe que l'on sait. Souvent, on croit que parce que ça fait très longtemps qu'on vit avec quelqu'un ou qu'on connaît très très bien cette personne depuis très longtemps, on croit qu'on sait, on croit qu'on comprend, on croit qu'on sait ce que la personne est en train de vivre. En fait, l'attitude dans laquelle on part d'un point de départ où on sait, elle coupe le lien. Elle permet pas d'être en lien, elle permet pas la relation. Alors que si au contraire, on garde les yeux d'un enfant et on cherche à découvrir ce que l'autre est en train de vivre et on regarde une attitude curieuse envers l'autre et envers soi-même, parce que le fait de parler d'un sujet va faire naître des émotions à l'intérieur de nous-mêmes, et on le sait potentiellement, on ne le sait pas non plus, donc on va aussi découvrir des choses à l'intérieur de nous. Partir de ce principe d'être curieux permet de détendre complètement l'atmosphère et de faire que le lien soit possible, parce que rien n'est fixé à l'avance.
Oui. Et le troisième engagement qui va avec celui-là, c'est de prendre l'engagement de rester généreux. Ça va avec celui-là parce que c'est envers l'autre et c'est envers soi-même aussi. Généreux par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le jugement, c'est-à-dire de faire tout ce que je peux pour ne pas en penser quelque chose, pour ne pas juger, pour ne pas tirer des conclusions, faire la meilleure hypothèse possible, avoir cette générosité de ma curiosité, avoir la générosité de ne pas juger et avoir même la générosité de toute la bienveillance que je suis capable d'avoir, encore une fois, envers l'autre, envers ce qu'il me dit, qui vient me chercher, qui vient me piquer, qui vient me blesser, mais aussi envers soi-même. Parce que parfois, on s'entend nommer des choses, on s'entend dire des choses, et en temps réel, on est en train de se juger à l'intérieur de nous, de dire « mais comment est-ce que tu peux dire ça ?» Mais enfin, ou à un moment, on va dire quelque chose, et puis en fait, ça va faire tellement mal à l'autre qu'on va commencer à s'en vouloir, qu'on va commencer à se juger. Donc, c'est aussi garder cette générosité envers nous-mêmes, de nous dire « ok, en fait, je suis dans mes émotions, c'est en train de toucher quelque chose de mon histoire, c'est en train de réveiller des choses, et on a besoin de pouvoir en parler, on a besoin de pouvoir traverser ça ensemble, et du coup, c'est ok. » Alors, bien sûr, ça n'empêche pas d'avoir des limites dans ma tête et de faire attention à ne pas dire des choses qui seraient intentionnellement blessante ou de pas aller sur des sujets pour faire mal à l'autre, etc., etc. Mais vraiment de garder cette générosité de penser, cette générosité de vision par rapport à ce qui est en train d'être vécu, que ce soit l'émotion de l'autre ou que ce soit la mienne.
Un autre engagement extrêmement important, et là pour le coup souvent pas facile, c'est l'engagement de tenir bon dans la tempête. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment dans ce genre de conversation où on est au milieu du pont. On est entre les deux rives, en fait. On est nulle part. On est au milieu de l'émotion. On est, comme un petit bateau au milieu d'un océan avec des grandes vagues qui nous chahutent, en fait. Et dans ce moment-là, on va avoir envie d'abandonner. On va avoir envie de fuir, on va avoir envie de sortir, on va avoir envie justement de retomber dans le jugement parce qu'on a mal, ou d'accuser l'autre, ou de se défausser, ou de fuir la responsabilité de notre part dans la situation. Et en fait, il faut partir du principe que ce moment-là, il va arriver. En fait, il faut arrêter de croire que en fait, ce moment-là, on va l'éviter, ou que non, ou que c'est exceptionnel, ou quoi, machin. Non, à partir du moment où on a une conversation difficile, ce moment-là, il va exister.
Oui.
Donc c'est pas si, mais quand il va exister. Et à partir du moment où on est prévenu et où on le sait, et où on prend a priori l'engagement de rester dedans, ne pas chercher de solution technique pour sortir, fuir, et immédiatement dire « ah ben ok, ben on n'a qu'à faire ça, le problème il est réglé ». Non, non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de rester ensemble dans l'émotion pour donner de la valeur à cette conversation et qu'on se sente chacun entendu et considéré.
Oui, et puis pour arriver à identifier correctement le problème, entre guillemets, le sujet, parce que c'est aussi ça, ce qui vient en premier est souvent ce qui est le plus blessant et en même temps pas du tout le plus aidant, voire parfois le plus faux. C'est-à-dire qu'on commence par le sujet technique, hein, le sujet du quotidien, le sujet... Et bien sûr qu'au début on croit que c'est ça le sujet, mais tout le jeu va être d'aller chercher ce qu'il y a en dessous, d'aller chercher les émotions que ça réveille, d'aller chercher l'histoire que ça réveille. Et cette partie-là, parce qu'elle va nous mettre dans la vulnérabilité, elle est extrêmement inconfortable, voire douloureuse, effectivement. Et il y a vraiment cette idée qu'il faut qu'on la traverse pour arriver de l'autre côté. Comme tu disais, il faut qu'on traverse pour trouver la rive, pour trouver la paix, enfin, pour pouvoir respirer, pour pouvoir en comprendre autre chose et faire autrement ensuite, créer autrement. Donc, il y a vraiment ce besoin de cet engagement à, ok, on décide ensemble d'aller dans la vulnérabilité, de plonger quelque part, mais on décide ensemble aussi qu'on va atteindre l'autre rive et on ne va pas lâcher jusqu'à ce qu'on atteigne cette autre rive. On ne va pas se laisser au milieu de cette tempête ou on ne va pas se quitter au milieu de cette tempête. On prend l'engagement d'aller ensemble de l'autre côté.
Et en même temps, aussi être réaliste sur le fait qu'il y a un moment où on va avoir envie de se quitter au milieu de la tempête. Il y a un moment où on va avoir envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, qu'on va dire ah, c'est impossible et tout machin. Et aussi se souvenir qu'à ce moment-là, si vraiment l'émotion, elle est trop forte et qu'en fait, ça devient ingérable à l'intérieur de nous, on a aussi le droit de faire une pause. C'est-à-dire que faire une pause permet de ne pas abandonner.
C'est plus que le droit. C'est, encore une fois, un engagement. Pas un devoir. Un engagement à faire une pause quand j'en ai besoin. À le nommer, effectivement.
Parce que quand l'émotion est trop forte, au bout d'un moment, le cerveau est disjoncte.
Oui.
C'est-à-dire que si le cerveau du mammifère est complètement saturé ou le cerveau reptilien est activé parce qu'il y a des processus de survie qui sont en jeu dans ces sujets émotionnels et perçus comme étant dangereux, faut pas croire que notre cerveau rationnel il va être capable d'articuler des idées correctement pendant très longtemps. À un moment donné, il va péter un câble, il va disjoncter et en fait on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à maintenir le lien parce qu'en fait on a mal. Donc à ce moment-là, c'est se donner la liberté et assumer la responsabilité, la prendre, de se donner à soi-même et aussi du coup à l'ensemble du système, une respiration.
Oui, une respiration, une pause pour ensuite y revenir. Et bien sûr, l'engagement, cet engagement-là, c'est prendre une pause quand c'est nécessaire pour y revenir. Et là, le mieux, c'est de décider quand est-ce qu'on y revient. De la même façon qu'au début, on a choisi ensemble le moment, on a choisi ensemble le contexte et on a ensemble posé ses accords et passé ses engagements, quand on fait une pause, on décide ensemble de quand est-ce qu'on va en reparler. C'est pas juste, ok, là j'ai besoin qu'on en fasse une pause, on arrête d'en parler. Et du coup, ben oui, mais on en reparle quand ? On en reparle ce soir quand on va se coucher ? On en reparle demain matin au petit déjeuner ? On en reparle quand ? Quand ta mère vient, par exemple ? Ça peut être un bon moment pour en reparler, qu'est-ce que t'en penses, tu vois ? Donc, il faut décider, de nouveau, quand est-ce qu'on va y revenir ? Dans quel moment ? Dans quel contexte ? Qu'on repose les engagements quand on y revient, en disant, ok, est-ce qu'on est toujours d'accord sur le fait qu'on va ensemble dans la vulnérabilité, qu'on va rester curieux, qu'on va rester généreux, qu'on va traverser les moments inconfortables, que si on a re-besoin d'une pause, on va le faire, etc., etc. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui donne profondément de la sécurité, de savoir que, à la fois, je peux demander un pouce. Je ne suis pas obligée de passer dans la machine à laver avec la formule séchage max à 1300 tours par minute. Je peux à un moment dire, ok, en fait là, je ne peux plus, là, je suis submergée, je ne peux plus. Et en même temps que l'autre ou moi-même, on a la sécurité de savoir qu'on va en reparler et on va en reparler toujours dans des bonnes conditions. Pas n'importe quand, n'importe comment. Ça, c'est vraiment essentiel pour créer cette sécurité et cette confiance. Alors, l'engagement suivant, qui est de loin pas le plus simple, c'est de se dire qu'on va être sans peur dans le fait de chacun prendre nos parts de la situation, nos parts du problème. Et oui, parce que même si c'est toi qui nommes le problème, même si tu le nommes comme étant ton problème, en fait, j'ai forcément ma, voire plus souvent mes parts de ça. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas du tout instinctif et naturel dans notre cerveau, de voir quelle est notre responsabilité. On a plutôt tendance à mettre la responsabilité sur l'autre ou sur quelque chose d'extérieur, à chercher à se dédouaner, à chercher à se justifier, à chercher à rationaliser nos comportements, etc., etc. Encore une fois, c'est comme le jugement, on le fait tous, et c'est normal que ce soit ça la première réaction. Mais, de nouveau, pour pouvoir créer un espace de sécurité, on a besoin de savoir que chacun va prendre sa part de responsabilité. Et encore une fois, c'est sa part, c'est-à-dire pas 100%. Et c'est là que ça devient juste, en fait. C'est qu'il n'y a jamais quelqu'un qui est responsable à 100% et quelqu'un qui est responsable à 0%. Et ça, ça redonne aussi du pouvoir à tout le monde dans la scène. Ça veut dire que je ne suis pas juste soumis et impuissant face à ce que tu me formules à ce moment-là comme étant un problème, voire comme étant un reproche. J'ai une part de responsabilité, donc je peux faire autrement. Et tu as une part de responsabilité, donc tu peux faire autrement. Et du coup, le système devient gagnant.
Et c'est profondément contre-intuitif parce qu'on pourrait croire que c'est plus simple justement d'accuser l'autre et on retombe du coup dans le jugement. Hein. Et en fait, il y a plusieurs raisons au fait que c'est intéressant de chercher à suspendre le jugement. Il y a le fait, comme on le disait tout à l'heure, que l'autre ne se sente pas agressé, accusé, jugé dans qui il est ou dans ce qu'il fait. Il y a un autre intérêt qui est beaucoup moins facile à voir, mais qui peut très clairement se sentir. C'est qu'au moment où je réassume ma part de responsabilité, j'arrête de juger l'autre. Et si j'arrête de juger l'autre, je retrouve la liberté. La liberté émotionnelle. C'est-à-dire que ça crée à l'intérieur de nous une sensation d'espace qui peut même aller jusqu'à... Enfin, c'est une forme de libération, en fait. J'ai l'habitude de dire que, en fait, la clé de la liberté tient dans la responsabilité. Alors que pourtant, notre cerveau, il n'a pas du tout tendance à faire ça spontanément. Il a vraiment envie de dire « Non, non, mais ce n'est pas ma faute, mais regarde, c'est l'autre, regarde comment il s'est comporté, cette espèce de corneau. » Alors qu'en fait, non. Tout à coup, au moment où je peux réassumer mes parts de responsabilité, en fait, ça me libère.
Et ça me redonne du pouvoir.
Alors, l'accord suivant, l'engagement suivant, c'est un accord que j'aime beaucoup. Et que j'ai mis beaucoup de temps à vraiment sentir et à saisir et à pouvoir appliquer. Et je continue à être très vigilant là-dessus. C'est chercher à écouter avec la même passion que celle avec laquelle on voudrait être entendu. Moi, j'ai tendance à croire qu'on ne m'écoute pas, qu'on ne m'entend pas et qu'on ne me comprend pas. Et je sais que je ne suis pas le seul. Et du coup, dans ces moments-là, on a tellement envie de parler. On a tellement envie de dire ce qui nous pèse sur le cœur, on a tellement envie de dire ce qui nous fait souffrir ou de chercher à expliquer avec des menus détails à l'autre ce qui est en train de se passer, que parfois on ne se rend pas compte qu'on a du mal à écouter ce qui est en train de se passer, qu'on a du mal à écouter l'autre. Et en fait, personne n'aime se faire ensevelir par l'autre, personne n'aime se faire oppresser. Moi, je déteste ça. Et pourtant, j'ai tendance à le faire auprès des autres. Et du coup, dans ces moments où l'émotion est forte et où l'intensité émotionnelle est forte, c'est se souvenir de à quel point ça fait du bien de se sentir entendu. Et que si tout à coup, je me mets à écouter l'autre vraiment avec curiosité, avec la même passion que j'aimerais qu'on m'écoute moi, tout à coup, ça recrée une forme de lien, ça recrée une forme de tendresse et de douceur dans l'interaction qui dénoue, en fait, la douleur qui peut avoir lieu dans ce moment-là. Il y a une expression qui est très belle qui dit « Les gens n'ont pas envie de savoir ce que tu sais, n'ont pas envie de porter de l'importance à ce que tu sais, tant qu'ils ne savent pas que tu leur portes de l'importance, que tu leur accordes de l'attention et de la considération. » Et c'est très vrai. Il y a quelque chose de magique là-dedans. À partir du moment où l'autre sent qu'il est écouté, qu'il est entendu et qu'il a de l'intérêt pour nous, Ça libère quelque chose dans l'interaction et ça recrée la possibilité d'être en lien.
Et puis ça crée de l'égalité, encore une fois, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée de cet espace de sécurité et de ces engagements pris ensemble, c'est que du coup, il n'y en a pas un qui est sur la chaise, le siège éjectable et l'autre en position de le juger. Il n'y en a pas un qui est en position de faire le procès de l'autre et l'autre qui va tout se prendre dans la figure et sans pouvoir se défendre. Il n'y a pas cette asymétrie-là parce qu'en fait, on a décidé ensemble qu'on allait dans le moment et comment et quand et selon quel accord et engagement, etc. Donc, il y a vraiment cette notion de on va, encore une fois, ensemble dans la vulnérabilité et d'égalité dans ce moment-là. Et pour moi, écouter l'autre avec la même passion que celle avec laquelle j'aimerais qu'il m'entende, c'est donner à l'autre ce que j'aimerais recevoir et du coup créer cette égalité de chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit d'être entendu, chacun a le droit que l'autre fasse un réel effort intentionnel et parfois difficile de l'écouter, d'essayer de le comprendre, d'essayer de le ressentir. Et ça nous amène au dernier accord qui est de chercher à rejoindre l'autre là où il est, dans ce qu'il ressent. Chercher à ressentir pourquoi l'autre ressent ce qu'il ressent. On aurait tendance à dire comprendre, mais comprendre c'est trop intellectuel. C'est quelque part comprendre l'autre avec mes sentiments, comprendre comment ça se fait qu'il est en train de ressentir ça, comment ça se fait qu'il est en train de vivre ça. Et ça, ça repose sur ce que tu disais tout à l'heure, la curiosité, sur cette ouverture à l'autre, et ça repose forcément sur l'écoute, qui va me permettre de chercher à rejoindre l'autre là où il est. Alors, on vous redonne les engagements en liste et puis on vous les mettra sur Instagram. Donc rejoignez-nous sur Instagram @jevaismieux.jvm. On vous mettra tout ça si vous voulez les retrouver. Donc les engagements, c'est 1. Aller dans la vulnérabilité ensemble. 2. Rester curieux. 3. Rester généreux. 4. Traverser le moment inconfortable du milieu pour identifier le problème jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. 5. Faire une pause quand nécessaire, puis revenir. 6. Être sans peur dans le fait de prendre chacun nos parts du problème. 7. Écouter avec la même passion que celle avec laquelle on aimerait être entendu. Et 8. Chercher à rejoindre l'autre dans l'émotion qu'il est en train de vivre là où il est. Ce qui est génial, c'est que ça fait un 8. Le 8, c'est vraiment le symbole du lien et de l'infini. Et ça crée quelque chose entre nous de circulation d'énergie. C'est exactement ça.
Alors ça peut paraître tout un programme, mais en fait c'est comme toute chose, ça s'apprend, c'est de l'entraînement.
Ça se pratique.
Au début, on fait ça en le demandant consciemment et volontairement dans des situations ponctuelles. En disant voilà, là j'ai besoin d'un espace de sécurité parce que j'ai besoin de dire quelque chose de sensible. Mais en fait, on peut aussi progressivement en faire les lignes directrices d'un climat. Alors, qu'est-ce que c'est un climat ? Un climat, c'est la répétition de l'état, d'un état intérieur dans lequel on se trouve. C'est-à-dire, c'est la répétition d'une forme de comportement, la répétition d'une manière de faire qui, en fait, progressivement, dans le temps, construit une émotion partagée qui dure, en fait.
Ça arrête d'être une sorte de constante, en fait.
Une sorte de constante, ouais. Et c'est une autre forme de confiance, qui peut devenir très agréable et très apaisante. Et on peut chercher à instaurer un climat de sécurité pour les relations qui ont réellement de l'importance pour nous. Donc dans le couple, bien évidemment, parce que c'est peut-être là où on en a le plus besoin au départ. Enfin, c'est là où c'est le plus flagrant, c'est là où on se fait potentiellement le plus mal et où la notion de jugement peut être la plus douloureuse. Avec les amis, en tout cas les amis sincères avec qui on a vraiment envie de maintenir un lien de qualité. Et aussi dans le travail. Dans le travail quand c'est possible, et particulièrement si c'est nous les responsables d'une équipe ou les chefs globaux d'une entreprise, parce que justement, quand on est patron, c'est nous qui instaurons le climat de ce qui va se passer. Et créer un climat de sécurité pour que dans une entreprise, les gens puissent parler réellement de ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils ressentent, c'est quelque chose qui augmente le bonheur au travail, bien évidemment, qui augmente l'engagement des gens dans leur travail, bien évidemment, et qui, au final, augmente la productivité d'une manière absolument incroyable. Parce que si les gens sont là et ont la possibilité, en l'ayant choisi justement avec des accords, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir s'exposer en vulnérabilité et dire ce qu'ils ressentent, tout à coup, on a envie de faire bien.
Et oui, Et puis pour plein de raisons, parce que déjà ça crée des liens dans l'équipe qui sont d'une bien plus grande qualité et profondeur, donc ça crée beaucoup de fluidité dans la communication, etc. Ça crée ce sentiment de confiance et de sécurité dont on a tous besoin, et croire qu'on en a besoin tout le reste du temps, mais pas au travail, c'est une erreur. Et puis après, ça crée aussi des choses où, ben, du coup, ça veut dire que les employés, ils osent dire quand il y a un problème, quand ils ont fait une erreur, quand ils savent pas, quand il y a quelque chose qui leur paraisse bizarre, quand il y a quelque chose qui a besoin d'être revu, d'être rediscuté, etc., etc. Donc en fait, ça prévient aussi toutes sortes d'erreurs ou de problèmes dans le système. Bon, c'est tout un sujet qui mériterait en lui-même un podcast, mais effectivement, c'est quelque chose, encore une fois, les êtres humains sont toujours des êtres humains quand ils sont au travail, donc on a besoin de la même chose. Réussir à instaurer ça, c'est génial en fait, ce serait génial. Et du coup, c'est ça, c'est que quand c'est quelque chose qui est toujours là, quand c'est pas seulement quelque chose que je peux demander officiellement et intentionnellement, même si c'est là, comme climat, je peux quand même le demander, hein. Mais si c'est quelque chose qui est là de façon permanente, constante, et qui se sent justement dans le climat relationnel des gens, alors ça crée une confiance qui est bien plus profonde à l'intérieur de moi. Ça crée ce sentiment de sécurité profond qui n'est pas ponctuel, qui n'est pas circonstanciel, qui ne dépend pas juste du fait que là, je l'ai demandé et qu'on va prendre le moment. Donc, ça ouvre énormément. Ça permet de donner plus, ça permet de partager plus, ça permet de prendre plus de risques, ça permet que chacun s'ouvre plus dans sa vulnérabilité, ça permet de se montrer, ça permet d'oser être soi. Donc, ça approfondit dans nos relations intimes l'amour, l'affection, le sentiment de se connaître aussi. Et puis, dans toute notre vie, et peut-être en particulier dans le monde du travail, ça permet aussi la créativité et l'innovation, parce qu'il n'y a pas de créativité et d'innovation sans prise de risque, sans être soi, sans se dire « ah bah tiens, j'ai une idée, ok, je vais tenter, ok, je vais la présenter, ok, je vais la proposer ». Ça, c'est de l'innovation, ça, c'est de la créativité. Mais pour ça, il faut que je puisse prendre des risques. Il faut que je sois dans ce climat de sécurité. Donc vraiment, cette sécurité profonde, elle ouvre à énormément de choses qu'on n'a pas quand la sécurité n'est pas là.
Alors une nouvelle fois, on va vous proposer un petit challenge. Parce que c'est bien beau d'en parler, mais en fait, il n'y a qu'une seule manière de s'en rendre compte, c'est en le faisant.
Oui.
Et pour ça, on vous propose de choisir au minimum deux personnes, mais ça peut être plus, mais on peut commencer avec deux personnes. Deux personnes qui sont déjà intimes, donc deux personnes d'un cercle proche, pas deux inconnus qu'on choisit dans le bus. Et de leur proposer officiellement de mettre en place un espace de sécurité et de bien prendre le temps d'énoncer tous les accords dont on vous a parlé, les 8 accords de tout à l'heure. C'est-à-dire que de bien prendre le temps de les expliquer, de les partager, de les comprendre ensemble et de les conscientiser.
Et de donner son accord, du coup,
de partager. Et du coup, de donner son accord, de le faire, de s'engager mutuellement ensemble à partager ce moment de qualité. Et après ça, de oser prendre le risque de partager quelque chose de risqué. Donc soit quelque chose que vous n'avez jamais partagé avec eux, soit quelque chose que vous n'avez jamais partagé tout court, mais quelque chose qui vous fait rentrer dans de la vulnérabilité et qui comporte un risque pour vous. Et ensuite, on vous invite à venir le partager avec nous, de partager ça sur Instagram. Alors, pas forcément le sujet en lui-même, hein, c'est pas ça la question, mais de venir nous dire qu'est-ce que vous avez ressenti. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre tête, dans votre ventre, dans vos émotions? Parce qu'en fait, à partir du moment où on se met à ouvrir des espaces de cette qualité-là, dans la relation, il se passe des choses magiques.
Oui, donc qu'est-ce que ça a ouvert pour vous? Qu'est-ce que ça a créé? Et puis dans la relation aussi, comment vous vous êtes senti avec l'autre après? Effectivement, venez nous dire, encore une fois, pas nous raconter le sujet lui-même parce que lui, il appartient à votre intimité et qu'on ne fait pas partie des deux personnes que vous allez choisir et tout Instagram certainement pas non plus. Donc, sans nous donner les détails intimes qui concernent le sujet que vous avez abordé, mais juste, voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que ça a ouvert pour vous? Qu'est-ce que ça a ouvert pour l'autre? Qu'est-ce que ça a ouvert dans la relation? On adorerait vous lire. Pour nous tous, les conflits sont une plaie. ce que nous essayons d'éviter. Parfois, au prix de ne plus être capable de dire ce que l'on pense ou ce que l'on ressent, de poser des limites saines et de demander ce dont nous avons besoin. Et la relation petit à petit perd son sens. Dans d'autres situations, les conflits deviennent tellement récurrents et douloureux qu'on en devient usé, fatigué, et que la seule solution semble alors être de mettre fin à la relation. Et si ce n'était pas la seule solution ? Et si on pouvait désarmer nos conflits au moment même où ils pointent le bout de leur nez pour éviter l'escalade de violence et de mots blessants ? Et si on n'avait pas à en avoir peur, mais au contraire, qu'on pouvait plonger avec confiance dans nos vulnérabilités pour découvrir qui nous sommes ? C'est le pari un peu fou que nous vous proposons. Ça vous dit plus de confiance en vous et de paix dans votre quotidien avec cette ou ces personnes qui comptent tant ? Allez sur la page internet www.jevaismieux.fr/3C et découvrez gratuitement la méthode des 3C qui va changer votre vie. Merci d'écouter Je vais mieux. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et si vous avez aimé, si ça vous a inspiré, laissez une note pour que d'autres puissent le trouver. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché. Nous voulons vraiment vous lire. Et comme toujours, montrez votre humanité. Créez des relations qui répondent à vos besoins. Et aimez. Aujourd'hui.
Nous sommes Aimé et Adrien. Et ici, c'est Je vais mieux. Le temps est bon, le ciel.